Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment évolue le processus de désengorgement des prisons en République démocratique du Congo? On en parle dans quelques instants avec Emmanuel Adou Kolé, président national de la Fondation Bill Clinton. Emmanuel Kolé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission des questions et préoccupations. Appelez-nous déjà au 099-706-9941, on aura en ligne Maître Omar Kigalo, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Omar, bonjour.
Bonjour Maître Kigalo et bonjour à tous les lecteurs de la Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Dans la deuxième partie de ce programme, nous parlerons du rôle des abeilles dans les écosystèmes et comment nous devons et pourquoi les protéger. Olivier Badibanga Kongolo, promoteur des Happy Congo, l'association des apiculteurs, sera notre invité. On aura également le professeur Amundel Adrazo, expert en faune sauvage. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, en RDC, les conditions de détention sont inhumaines dans bon nombre de prisons. Le centre pénitentiaire de Makala, par exemple, prévu pour 1500 personne accueille aujourd'hui environ 15 000 personnes. Selon l'ONG, la Fondation Bill Clinton pour la paix, plus de 500 décès ont été enregistrés dans cette prison en 2023 à la suite de mauvaises conditions de vie. Pour désengorger les prisons de Makala et d'Endolo, le gouvernement a mis en place une commission spéciale pour passer au peigne fin les dossiers de chaque prévenu et libérer les cas moins importants ou bénins. Et puis voilà, les détenus ayant été condamnés définitivement doivent être transférés dans d'autres prisons ou maisons de détention. On parle déjà de la construction d'une prison du côté de Menkao, vers Maluku, ici à Kinshasa. Alors, comment évolue ce processus des désengorgements des prisons? Emmanuel Adou Kolé, vous êtes président national de la Fondation Bill Clinton. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, une commission a été mise en place. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de cas bénins qui ont été déjà libérés.
Oui. Comme vous savez, c'était dirigé par le PG Alain. Ils ont fait le travail et selon les rapports finaux, ils ont libéré 1500 prisonniers et détenus préventifs.
1700.
Oui. Détenus et prisonniers. Et après avoir déposé les rapports, leur travail est préfet. Mais entre-temps, au lieu de... On parle de désengorgement, mais entre-temps, on remplisse. Et Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes dépassés 15 000 et de là.
Donc on a fait sortir 1500 et après il y a encore combien qui sont entrés?
Je vous dis, ils entrent tous les jours, les vendredis, les vendredis. Il y avait 70 qui sont entrés.
Oui. À la prison de Makala.
À la prison de Makala. Donc c'est pour vous dire que des gens entrent tous les jours. Bon, nous avons dans son temps souhaité que certains dossiers de Kabena soient être traités au niveau de la police ou au parquet. Mais ce n'est pas le cas. Le parquet dit, mais écoutez, nous sommes là pour qualifier d'infraction. Nous, on ne voit pas les conditions de détention. Donc, il faut arrêter. Même si vous arrivez au pavillon neuf, vous trouvez même les fous qui sont détenus.
Même les fous sont là-bas.
Ils sont là-bas. Les femmes, les pavillons neufs, ils sont fous, ils sont là. Bon. Il y a les malades.
Les folles.
Les folles. Il y a des gens de malades chroniques. Les prêts, les pots, tout. Et tous ces gens-là, pour le cas humanitaire, ils devaient être libérés, mais ce n'est pas le cas. Ils sont nombreux.
Donc, on peut dire que le travail de la commission s'est arrêté, ou bien
c'est ce travail continue. C'était arrêté les jours qu'ils ont déposé leur rapport chez le ministre. C'était arrêté les jours-là. Donc, aujourd'hui, la commission ne fait plus leur travail. La commission a arrêté son travail. Il suffit que peut-être le ministre nous donne notre orientation, mais cela aussi, c'est broke. Parce que sans l'autorisation des ministres d'État, Rose Mutombo, et le magistrat ou bien la commission, il ne peut pas continuer le travail. Or, le ministre elle-même sait que la situation est grave. La situation est... C'est non même pas, on parle seulement à Kinshasa, hein, mais l'intérêt c'est pire. Je viens de lire un rapport là, le Grand Kassai. Il y a même certains détenus qui étaient, on avait libéré parce qu'il n'y a pas un endroit pour les garder. Ils sont libérés pour compte de... Parce qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas un espace pour les garder.
Pour les garder. Et c'est partout dans la province, on est décédé. Bien que, bon, beaucoup de gens sont en train de dire que non, voilà, les missions de MONUSCO étaient fiasco. Mais quand même, nous devons reconnaître que MONUSCO avait aidé le gouvernement congolais à construire ou bien réhabiliter plusieurs à la maison d'arrêt qui était abandonnée à l'Est, même à Kinshasa, même à Bas-Congo.
Au Congo central.
Au Congo central, par exemple. Donc, c'est pour vous dire que même ici au pavillon neuf, le pavillon des femmes, qui avait à habiter ça, qui avait donné les matras, c'est toujours dans MONUSCO. Donc, le chauffe-l'eau, le lot qu'on amène en prison centrale de Makala, c'est le MONUSCO qui a établi ça. Donc, tout n'est pas bon, mais le MONUSCO avait vraiment
contribué.
Voilà.
Bien. Maître Omar Kigalo, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous avez suivi la commission à travailler. Près de 1500 personnes ont été libérées, mais chaque jour, il y a encore des nouveaux détenus qui débarquent à Makala et dans d'autres prisons. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Continue avec ce processus de désengorgement. Maître Marc Igalo.
Merci beaucoup, Monsieur Jody Duver, que vous m'adjugez. Ce sujet est important parce que il y a deux textes importants qui régulent, n'est-ce pas, la détention au Congo. Nous avons l'ordonnance du 19 septembre 65, portant régime pénitentiaire. On a également le décret du 6 août 1959, portant code des procédures pénales. Si vous lisez ces deux textes, vous allez vous rendre compte que la loi tant protéger les détenus, tant provisoire que définitif. Il est demandé à l'État de leur accorder un droit à une bonne alimentation, mais aussi un environnement sain. C'est ça le nœud du problème. C'est pour cette raison qu'on a limité le nombre des détenus au niveau des prisons et des amigos des maisons d'arrêt. Mais qu'est-ce qu'on constate? Telle a été l'entame de votre émission. Makala a été construite pour 1500, on en est à 10 000. Ndolo, par exemple, a été construite pour 500, on en est aujourd'hui à plus de 7000. C'est un problème sérieux. Avant de proposer mes solutions en tant que juriste, je voudrais quand même que nous puissions scruter les causes sérieuses qui occasionnent cette surpopulation que nous condamnons. La première cause, monsieur Jeudi, ce sont des arrestations arbitraires et des détentions illégales. En droit congolais, la liberté est le principe, la détention est l'exception. Donc, en réalité, chaque être humain, même s'il commet l'infraction, il est censé être libre. On n'arrête que pour des conditions, pour des causes sérieuses. Premièrement, si la personne présente un risque de fuir. Les deux, si son identité est douteuse, on l'arrête, il dit, il s'appelle Kachama. Dans sa carte d'électeur, on voit Koshomo. Ah, mettez-le d'abord là-bas parce que c'est suspect. Ou encore, il y a des indices sérieux de culpapabilité. On est au studio de la radio, Capi, tout le monde meurt, on voit M. Tati seul vivant avec un couteau. Comme il y a un indice, on le met d'abord à côté avant les enquêtes. Enfin, lorsqu'il y a gravité des faits, exemple le meurtre, le viol sur mineur, ce n'est que dans ces conditions qu'on peut détenir. Donc la première cause sont des détentions illégales orchestrées par des recommandations politiques telles et frère d'un général, on s'est chamaillé entre voisins. Ce matin, je venais d'être consulté, une dame est victime parce que son voisin a un frère général. On a même instrumentalisé les OPJ et on a libéré celui qui a blessé l'autre. Ça, c'est la première cause, détention illégale. Deuxième cause, la détention pour des faits civils et pour des faits bénins. Aujourd'hui, on arrête des gens pour des dettes. La dette n'est pas une infraction. Si vous avez une dette et que vous ne payez pas, ça se résout devant les juges civils. Il y a des arrestations pour dettes. Il y a même des gens qu'on arrête pour avoir engrossé une femme majeure. Donc, Kanye Poitézen. Il y a des faits bénins. Les locataires se chamaillent des injures simples.
Oui.
On peut se limiter à des amendes transactionnelles, des violences et voies légères. Est-ce qu'on peut arrêter pour ça? Donc les détentions pour des faits bénins, des faits civils, des faits non infractionnels, c'est aussi une cause. Troisième cause, c'est l'absence des maisons d'arrêt et des amigos. Il faut distinguer, très cher, je dis, les amigos des maisons d'arrêt et la prison. La prison est faite pour les détenus punitifs ou définitifs. Parce qu'on peut être arrêté de manière provisoire, on peut s'être arrêté après avoir été condamné. Amigos, c'est au niveau des OPJ. L'OPJ arrête une personne et il a 48 heures pour apprécier. Soit il les relaxe si les faits ne sont pas établis, soit il envoie au parquet. Au niveau du parquet, il y a des maisons d'arrêt qui doivent être faites. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, au-delà des 48 heures, on ne peut prolonger la détention provisoire que si et seulement s'il y a des conditions. Par exemple, il faut d'abord les maintenir parce que l'instruction exige qu'ils soient encore là. On n'a pas assez d'amigos, on n'a pas assez de maisons d'arrêt. Voilà pourquoi lorsque le bus de la prison vient, on envoie tout le monde là-bas. Il faut aussi réguler ça.
Maître Omar, il semble qu'il y a aussi un business qui s'est développé autour de ça. On vous retient dans les amigos, on vous demande de payer rapidement. Sinon, si les bus passent, c'est votre affaire, vous allez à Makala.
C'est même un fait que nous constatons. C'est devenu un vrai business et c'est devenu un moyen de pression. D'abord, par rapport aux OPJ, aux magistrats eux-mêmes et par rapport aux gens qui arrêtent. Donc, on vous dit, généralement, c'est lundi et vendredi. Alors, on vous dit, si vous êtes un lundi, si vous ne payez pas au dimanche, le lundi, le bus passera, ou le vendredi. C'est un fait que nous déplorons, parce que ça met en péril la liberté. Donc, j'ai profité de la radio Capi pour dénoncer ces faits, où on instrumentalise, on commercialise la détention. Autre fait ou autre cause, c'est l'inspection molle. Les décrets d'ici août 59, portant code et procédure pénale, donne l'obligation aux magistrats des parquets de passer régulièrement, au moins 3 mois par année, après 3 mois, dans les amigos, qu'on appelle cachots, dans les maisons d'arrêt et dans les prisons, pour vérifier l'état d'instruction. Il y a des gens, votre confrère journaliste que vous avez accueilli la fois dernière, qui a été libéré, l'a témoigné. Il y a des gens qui ont fait 3 ans sans avoir été jugés, alors que la loi limite la moyenne à 3 mois. On ne peut pas dépasser 3 mois sans être jugé. Il y a des gens qui ont fait 3 ans. L'inspection doit être faite au niveau du magistrat du parquet, au niveau du parquet général. On passe dans chaque prison, dans chaque amico pour poser des questions aux détenus. Pourquoi êtes-vous là? Je suis là parce que j'ai engrossé une femme majeure. On appelle l'OPJ, il montre le dossier. Si ce n'est pas le cas, on sanctionne l'OPJ disciplinairement et on libère. Cela n'est toujours pas fait. Voilà, très cher, je dis, la loi qui existe, les conditions qui sont prévues et les causes qui alimentent cette population que nous condamnons. Si on scrute, on soigne ces causes, on aura fait une œuvre utile. Par rapport aux solutions que vous m'avez demandé, moi je pense que la première solution pour éviter ces cas de surpopulation que nous condamnons, il faut d'abord former et recycler les OPJ. La majorité des OPJ sont très véreux et très mal formés. Ils ne savent pas faire la différence entre la détention provisoire et il y a même des OPJ qui vont jusqu'à 10 jours dans leur amigo. Pas parce qu'ils sont des mauvaises voix, parce qu'ils sont mal formés. Je salue le gouvernement qui a créé INAFORGE. l'Institut national des formations et des formations judiciaires, mais si on peut le mettre dans chaque province pour les former. Il faut aussi recycler les officiers des ministères publics. Je ne condamne pas la manière dont les recrutements ont été faits, mais on sait, on est en Afrique, on sait comment on devient ou on accède au poste. Il faut recycler ces gens, leur démontrer les modalités d'instruction. Quand est-ce qu'on peut détenir? On est magistrat, CV, les faits sont là. Deuxième raison, ou deuxième solution, il faut renforcer la sanction disciplinaire, monsieur Jody. Les magistrats du parquet et les OPJ se comportent comme des rois. Ils font ce qu'ils veulent, même s'il n'y a pas de faits verrés, même s'il n'y a pas des indices, et parce qu'il a été appelé par quelqu'un, il vous arrête. Si la population peut commencer à dénoncer de tels faits, si nous, avocats, pouvons aider nos clients à dénoncer de tels faits, si les autorités judiciaires peuvent sanctionner ceux qui se comportent mal, on n'aura pas tous ces problèmes. Et enfin, il faut construire des amigos. On a vu un financement de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter les palais de justice. Mais ce n'est qu'un palais de justice. La justice, c'est fait à la base. Si on peut déjà, au niveau de chaque quartier, de chaque parquet, de chaque juridiction, créer des amigos, des maisons d'arrêt pour permettre à la maison de, à la prison de respirer. Et enfin, il faut renforcer l'inspection. Je l'ai dit, c'est une obligation légale. La loi du 13 mars 2013 recommande aux magistrats du parquet de descendre partout de manière trimestrielle pour le faire. Voilà, à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres interventions, le décor qui est planté par rapport aux causes qui alimentent ces fléaux et par rapport aux solutions tant que faire c'est pourra que nous devons mettre en œuvre pour lutter contre cette cruauté humaine.
Bien, comment évolue le processus de désengorgement de nos prisons? Roger Marcel nous appelle de Kinshasa. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, vous voulez participer à cette émission? Eh bien, composez le 099 706 99 41.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, et bonjour à notre invité et bonjour à tous les amis fidèles de la radio JAP.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup pour la thématique du jour. Vous savez que ce sujet, on l'avait encore discuté la fois passée. Mais ce que nous vivons vraiment, nous regardons dans les prisons, c'est vraiment des choses vraiment difficiles. Il faut voir aujourd'hui, moi-même, j'étais victime. J'ai été arrêté un certain jour, arrivé au niveau de la commune. Lorsque je suis arrivé, la façon dont j'ai été maltraité, je me demandais, j'ai eu à commettre quel cas. Vous arrivez là-bas, vous avez des choses dans des poches directement. Des policiers confisquent. Lorsque vous dormez là-bas, l'OPJ lui-même, il vous donne des sanctions sans toutefois vous juger. Lorsque vous passez, non! J'avais vite compris, non, non. C'est que le chef de l'État dit que notre justice est malade, c'est réel. Moi, je pense que Maître Omar a donné un peu de quelques pistes de solutions. Il faut quand même aller avoir un peu de cas. Si vous allez aujourd'hui même dans les prisons, vous allez voir les gens qui ont été arrêtés pour des faits banals, pour des bagarres, pour les vols même de 5 000, 10 000 francs. Vous voyez, ces gens-là sont dans des prisons. Dernièrement, on a eu des témoignages avec les journalistes qui a été arrêté Sani Boujakira. Il y a des gens aujourd'hui dans des prisons où, jusqu'à ce moment, ils n'ont pas été jugés. Et on se demande vraiment, on est où? Je pense que si quand même notre ministre de la Justice, il essaie un peu avoir la situation qui se passe dans nos prisons pour toute la République. Parce que vous verrez que, comme la prison centrale de Makal, qui a été construite pour 1 500 personnes, aujourd'hui, c'est au-delà même de 10 000.
D'accord, merci Roger.
C'est des cas qui se passent.
D'accord, merci beaucoup. Des cas qui se passent. Merci bien. Oui. On va donner la parole à Ismaël Mumpoy de Lubumbashi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, je suis Daniel Kassava. Bonjour à Maître Omar Kigalo, que nous avons fier de l'entendre. Ma première préoccupation, c'est de savoir à M. Collet. Bon, par rapport au programme de 145 territoires, est-ce qu'ils ont fait quand même le constat combien de projets qui ont été initiés ou combien de prisons seront construites par rapport à ces projets? Bon, plupart des cas, je dis, c'est une complicité entre le plaignant et le magistrat. Souvent, Vous voyez, une personne qui est arrêtée, je vous donne l'exemple de mon petit frère à Kinshasa, là, il y a 2 mois. Bon, il vendait, il a contracté une dette. Bon, c'est son patron, par l'influence, son patron a été influencé. On l'arrête directement, on l'amène en prison, là. Il n'a pas fait même 2 jours, 48 heures qu'on dit, là, mais il est directement envoyé à Makala, là. Ça nous a quand même donné beaucoup de peine de faire sortir tout ça. C'est ça, ouais. Comme lui, c'est comme les autres qui subissent aussi ça. Imaginez si une personne veut arrêter, faire arrêter quelqu'un, il a fallu qu'il attende jusqu'à ce qu'il est vendredi. Parce qu'on l'arrête vendredi, samedi, c'est, vous voyez, c'est une demi-journée. Dimanche, le lundi, il est parti. La cause de tout cela, c'est la MONUSCO aussi qui influence à ce que les gens aillent en prison là. Vous imaginez que la durée où la détention c'est 48 heures, quand la MONUSCO passe, celui-ci a fait combien de jours ici? Au lieu de cerner les problèmes pour lesquels la personne a été arrêtée, s'il s'agissait par exemple de faire des nœuds pour lui qu'il soit libéré, mais encourage avec ses véhicules, on prend cette personne en débat, on les dépose en prison. Mais en plus de cela, il avait fallu que le maître Kigalo puisse aussi préciser quels sont les effets qu'une personne peut aller au parquet. Imaginez s'il s'agit de cours blessés, oui, on classe et serre, on n'est pas sur la table ici, j'ai le code pénal. Mais qui est sur ma table, je suis en train de lire aussi ça. Combien de temps, pour quelle cause? Il a fallu qu'on précise les causes pour qu'une personne doit aller au parquet.
D'accord, merci. Merci Ismaël. Merci Ismaël. On va donner la parole à Maître Cyril Ekoué de Kinshasa. Bonjour Maître.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Bon, je dis merci beaucoup de la pertinence de la problématique que nous avons, ou bien que nous sommes en train d'amorcer en ce jour. Je voudrais que nous puissions tabler avec notre invité sur une problématique, parce que c'est vraiment crucial la question. Vous savez que le système carcéral est souvent présenté comme une réponse, voire une solution indispensable, inévitable et nécessaire à un ensemble de maux sociétaux. C'est-à-dire la fonction attribuée à la peine privative de liberté ou à l'institution pénitentiaire tend à tenir à l'écart des individus considérés comme susceptibles de nuire à la société. Dès lors, je dis, la discrimination à l'égard des détenus apparaît comme une légitime dans ce sens que le statut des délinquants qui a violé la norme établie l'emporte sur celle des sujets des droits des citoyens ordinaires. Dans l'exécution de cette peine, je dis, toute revendication pour le respect des droits de l'homme menace par conséquent de faire de l'institution et ne rencontre aucune légitimité. Je crois qu'il y a un auteur, Lochka, qui écrivait, en tuant les sujets autonomes ou interdit par la même, quiconque de se réclamer du droit comme le pauvre, en fait contre les pouvoirs, tout comme en niant les droits subjectifs, on supprime la faculté de faire valoir des droits face au pouvoir. La loi n'est plus que le masque d'un pouvoir arbitraire affranchi du respect des lois. Je dis, si le champ pénal a constamment oscillé entre deux logiques, punir et guérir, le commun des mortels incarne constamment en lui la logique de punir et l'institution pénitentiaire et en elle-même l'explicitation de la sanction à ce que les détenus sont appelés à purger leur peine dans ce mur d'isolement qui est Makala. L'isolement est réalisé par une décision de justice recouvre à la fois, j'ai dit, la séparation du délinquant.
Maître oui. Cyril, là, oui. On est perdu, on ne comprend plus rien. Alors, de manière simple et claire, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
De manière simple, oui. De manière simple, en résumé, je pourrais vous dire simplement que oui. Il faudrait que nous puissions établir la différence entre un condamné et celui qui est qui est placé en détention préventive. Parce que, apparemment, un condamné doit purger sa peine en prison de Makala.
Oui.
Et puis celui qui est en détention préventive doit nécessairement être où? Quelle est sa place? Est-ce qu'à la prison de Makala ou bien quelque part? C'est-à-dire, il faut faire les distinguos sur cette question-là.
D'accord.
Et aussi, il faudrait créer la différence entre les arrestations arbitraires et les détentions arbitraires. Exactement. Parce que des préventions et des arrestations, des faits bénins qui peuvent être résolus par des amendes traditionnelles sont devenus aujourd'hui des infractions, des préventions que les délinquants doit purger sa peine au niveau de la prison centrale de Makala. Donc, moi, je souhaiterais, en résumé, que nous devons former les officiers de police judiciaire, recycler les officiers du ministère public, montrer à eux les modalités de détention, et aussi construire dans chaque province des amigos, des maisons d'arrestation
pour un peu libérer l'espace de la prison de Makala.
D'accord, merci maître Cyril. Merci maître Cyril. Bien, monsieur Adou Kolé, vous avez tout suivi. Votre réaction.
Bon, j'ai tout suivi.
Merci d'arranger vos casques là. Oui.
J'ai tout suivi, mais comme vous savez, il y a un langage africain qui dit que il n'y a pas les mauvaises troupes, mais il y a mauvais chefs. Cela veut dire que si nous avons les bons chefs au niveau des magistratures, les choses ne seraient pas être là, être comme ça. Le président lui-même avait dit, je vais opérer le changement, mettre des gens en tête de la magistrature, en croyant qu'ils devaient faire leur travail tel que souhaité par les propres Congolais. Mais hélas, je vous avais dit dans votre propre micro que, au niveau du Cour de cassation, les juridictions qui sont dirigées par le premier président, il y avait beaucoup de dossiers qui traînent, qui ne parvenaient pas à prononcer. Par exemple, le dossier de Doré Makamou et consorts, c'était prononcé à cause de la commission qui était mise sur pied par son excellence, madame la ministre de la justice.
Mais pourquoi on fait traîner les dossiers? C'est pour quelles raisons?
Voilà. Les raisons, c'est quoi? C'est parce que, vous savez, au niveau du Cour de cassation, pour qu'un dossier va chez un rapporteur, il faut donner les billets à un rapporteur. Si cela, ça, rapporteur prend le dossier, met ça dans le coffre.
S'il n'y a pas d'argent, c'est fini, ça reste là.
Ça reste là. Donc, il faut la motivation. Rapporteur, c'est quoi? Rapporteur, il a étudié le dossier et il fait la synthèse, il l'a envoyé chez secrétaire de Prenner. Et le secrétaire Prenner fait le dossier au niveau du tribunal. Mais, nous, comme je suis intervenu, nous avons certains dossiers qui est depuis, disons, 5 ans.
Qu'on ne traite pas parce qu'il n'y a pas d'argent.
Il n'y a pas l'argent. Et aussi, il n'y a pas le suivi. Or, lorsqu'un dossier arrive au niveau du tribunal, suivi ou pas, il faudra que le dossier suive son cours normal parce qu'on enregistre.
Mais vous avez suivi, il y a des gens qui sont à Makala qui ont fait 3 ans sans être, ils n'ont jamais été entendus.
Mais nous avons beaucoup de cas, nous avons beaucoup d'exemples. Mais si même à la capitale, à laquelle il y a l'institution judiciaire et politique, les choses font comme ça, mais à l'intérieur, c'est pire. Mon frère, je suis en train de vous dire que, parce que des gens parlent seulement de l'Est. Mais, je vous envoie dans la Constitution congolaise, article 16. Être humain et sécurité a le droit de respecter et de protéger. Donc, ceux qui sont en train de mourir à l'Est, ceux qui sont en train de mourir à la prison de l'EDC, ils sont tous égaux. Ils sont tous êtres humains. J'ai même appris à travers de votre confrère journaliste, Israël Mutombo, que il y avait un ancien détenu au temps d'époque de Kabila Père qui était libellé, mais elle a porté plainte pour la récession habituelle. L'État avait dommagé cette ministère avec beaucoup de millions de dollars. Mais des gens qui sont en train de mourir en prison, innocents, parce qu'un détenu préventif, c'est innocent. Parce qu'elle n'est pas condamné, même si elle est condamnée. Mais ils sont morts, l'État donne courage à leur famille. Voilà la politique des poids des mesures.
Nous donc ils sont là-bas dans des conditions inhumaines, ils mangent pas bien, ils dorment pas bien, ils sont malades et voilà et après ils décèdent comme ça.
C'est tout l'étouffement. Ce sont les étouffements qui tuent parce que je vous avais dit, tu peux manger le matin au soir avec l'étouffement, tu ne peux pas résister. Tu sais, moi j'avais eu la chance d'être reçu par docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. 2 fois avant sa mort, mais c'est que professeur et docteur Étienne Tshisekedi m'avait dit, un d'État qui ne souhaite pas le droit de l'homme, qui ne souhaite pas sa propre loi, et après a été disparaître. Nous avons cru qu'avec l'arrivée de son fils, il pourrait vraiment suivre les visions de son papa en respectant l'état des droits. Mais bon, en fait, peut-être, c'est pas arrivé.
Mais on a suivi le gouvernement. Les chefs de l'État en avaient parlé lors d'un conseil des ministres. Il a instruit la ministre de suivre ces dossiers pour désengorger les prisons. Mais vous avez suivi, la plupart des auditeurs ont proposé qu'il faut recycler, former les OPJ, recycler les officiers du ministère public, renforcer la sanction contre les magistrats parce que beaucoup ont versé dans la corruption et ils voient l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Bon, en fait, vous savez, moi je suis tout le temps avec le magistrat, on discute ensemble. Bon, il est vrai que d'abord, ce qu'on appelle ça le caution. L'État n'a pas déterminé le montant à payer pour que le magistrat respecte. Donc, un magistrat, il paye, prend $500, $1000 chez les clients ou bien chez les détenus, mais il verse seulement $20 au niveau de trésor, parce que l'État n'a pas déterminé le montant à payer. Et si l'État, pour crédibiliser leur pouvoir judiciaire, il faudra que l'État détermine le montant à payer pour que le magistrat respecte. Et c'est ça aussi que ça donne parfois le goût à certains. C'est tous les nouveaux magistrats qu'on vient de nommer là.
Mmh.
Il faut aussi voir, chercher à avoir l'argent rapide, avoir une voiture, un jeep. Ils convoquent n'importe qui. Même affaires civiles, on le convoque. Nous avons beaucoup de Nigériens qui sont convoqués pour une affaire civile, qui a un locataire qui a un problème avec son
bailleur.
Son bailleur. On le convoque au parquet et tout ça là. Mais tout ça là, c'est au niveau de la commune, ce n'est pas une affaire de parquet. Le parquet dit non, parce qu'il y a une loi là, depuis 2015, pour dire que si quelqu'un ne paye pas le loyer, soit être comme un crime, on va le poursuivre. Mais non, mais bon, en fait, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ouais. Il est aussi vrai que le magistrat travaille dans de mauvaises conditions. Il y a un intervenant qui m'a posé la question de savoir. Il y a combien à la maison d'Ali qui est construit à la province. Je vous dis que 18 ans d'FCC, ils sont rien construit. Le pouvoir actuel, qui aussi est venu, il n'a rien construit. Donc, c'est pour vous dire que il faut tout refaire.
Moi, maintenant, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que le processus de désengorgement continue ou ça s'est arrêté?
C'était arrêté les jours à laquelle le président de la commission des désengorgements a déposé son rapport à la ministre d'État.
Après avoir libéré 1500 personnes.
C'est fini.
C'est fini.
C'est fini.
Et tous les jours ici, il y a des gens qui les remplacent.
Ils les remplacent. Maintenant.
Ils ont même déjà dépassé les 1500, j'imagine.
1500. On est en train d'attendre 16 000. Maintenant, il faut un nouveau politique. Un nouveau politique, c'est-à-dire quoi? Il y a une proposition ou bien un décret portant création et organisation de fonctionnement de direction et l'administration pétentielle.
D'accord. Un instant, je vais accueillir quelques auditeurs et puis on va y revenir. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Charles Kissimba à Lubumbashi. Safari, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au désengorgement des prisons?
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur l'invité aussi, merci. Ma question est de savoir, ça me complique un peu. Qui est censé désengorger les prisons? Voilà, au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est monsieur le président de la République ou bien c'est monsieur le procureur? Ça, c'est une question. Et puis la deuxième, pourquoi est-ce que, quant à la compréhension de nos lois congolaises, il y a un peu de confusion? Vous allez voir ici, un juge ou un OPJ a arrêté quelqu'un, mais quand on juge la personne en question, et puis que non, la personne dit non, non, elle n'a pas compris, alors on dit, il faut faire le recours. Elle va à un niveau là élevé par rapport à là où donc on l'avait arrêté. Vous trouvez là-bas que non, on a compris aussi la loi de notre façon, soit on augmente, soit on diminue. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la loi est devenue comme la Bible complique les chrétiens? Voilà, c'est ce qui me préoccupe, sinon l'invité pourra...
Merci Safari. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au désengorgement des prisons?
Oui, bonjour monsieur Jody, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à mes confrères juristes. Vraiment, je suis très content de cette émission.
Quelle est votre question?
On a tous suivi des engorgements de nos prisons, mais la question vraiment qui a tracassé ma tête, que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, on va les engorger bien sûr, mais où est-ce qu'on va les envoyer au moment où ce sont les mêmes mots dans ces pays ici, dans toutes nos prisons?
Bon, si on désengorge, ça veut dire le cas Bénin, quelqu'un qui avait une dette, qui s'était bagarré ou qui avait engrossé. C'est fini, on les libère, ils peuvent payer des amendes et puis au lieu de les garder en prison.
Ça c'est un fait. Mais à part ça, il y a autant de dossiers. Il y a les autres qui sont emprisonnés pour autant de dossiers. Est-ce qu'on va se limiter seulement au cas Bénin? Moi je pense que nos prisons sont déjà saturées. Au lieu d'en penser déjà, en amont, il a fallu d'abord multiplier autant de maisons carcérales par-ci par-là. Mais c'est la chose qui n'est pas faite jusque-là. On pense seulement aux épargnes sur le désengorgement au moment où on n'a pas encore construit. C'est danser avant la musique ou bien qu'est-ce qu'on fait fabriquer finalement dans ces pays? On n'arrive pas à comprendre. Et pour terminer, Maître Omar a rappelé la loi portant régime pénitentiaire de 1965. Dans cette même loi, il est dit que les prisonniers ne sont pas vos clients, que lorsqu'ils sont encore en pleine audience, ils sont en train d'être jugés, vous devrez les accompagner, les visiter tout au long de leur séjour en prison. Mais ce que nous remarquons, vraiment c'est alarmant, ils sont abandonnés, les avocats arrivent à les abandonner comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent quand même revenir à ces que nous avons appris en déontologie et éthique? Voilà un peu tout ce que j'ai voulu demander de leur part.
Merci.
Qu'ils puissent me préciser où est-ce qu'on va les envoyer. Aujourd'hui, nous constatons que c'est un capital humain qu'on est en train de gaspiller comme ça. On est en train de songer à tenir la ville de Kinshasa, pourquoi pas toutes les villes. Mais on devrait penser qu'à part les droits comparés, il y a aussi la politique comparée. On puisse quand même les capitaliser. Avec l'agriculture, il y a autant de choses dans ces pays ici. Pas seulement arrêter des gens innocemment, mais aussi ces capitaux-là humains qu'on arrive à capitaliser jusqu'à présent.
Bien, merci. Maître Omar Kigalo, vous avez la parole.
Merci, M. Jogi. J'ai pu noter les interventions pertinentes des auditeurs. Je commence par Roger Marcel. Il a été victime d'une arrestation arbitraire. Ce qu'il faut faire, c'est dénoncer. Si c'était non péché, il faut les dénoncer auprès de l'inspection de la police. S'il a commis des infractions pendant son arrestation, il faut aller à l'auditorat. Nul n'est au-dessus de la loi. Si c'est un magistrat du parquet, il faut les dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature. S'il commet des infractions, c'est un magistrat, c'est un être humain comme tout le monde. Il faut aussi la traire en justice. Un magistrat peut aussi être jugé. Par rapport à la deuxième intervention de monsieur, toujours Marcel, il parle des programmes de 45 jours. Comme je l'ai toujours dit, monsieur Jody, les mandats politiques n'est pas un mandat d'explication, des imaginations. C'est un mandat des actions et des réalisations. On doit insérer dans les programmes des 145 la construction des différents hôpitaux. Il a encore demandé par rapport aux 48 heures comment ça se passe. Je l'ai dit, au niveau de l'OPJ, c'est 48 heures. Après 48 heures, il a des alternatives. Soit il relaxe la personne, soit il l'envoie au parquet parce que la loi le lui impose. Au niveau du parquet, les magistrats du parquet à 15 jours de la détention provisoire, parce qu'il faut distinguer la détention provisoire de la détention punitive ou définitive. Une personne non encore condamnée qui est détenue est un détenu préventif ou provisoire. C'est 15 jours. Après les 15 jours, il a encore droit à 15 jours de prolongation s'il estime que la libération de la personne est dangereuse. Après les 30 jours, il ne peut plus agir, les magistrats du parquet. Il faut aller devant le juge de paix qui doit décider ou pas de les relaxer. C'était là par rapport à M. Roger Marcel. Par rapport à Maître Thierry, il a raison, je l'ai dit, il faut faire la différence entre la détention provisoire et la détention punitive. Et selon la logique de la loi de 65 sur le régime pénitentiaire, un détenu provisoire, c'est-à-dire celui qui est arrêté sans être condamné, doit être dans une maison d'arrêt, alors qu'un détenu punitif, celui qui est déjà condamné, doit être à la prison. Par rapport à M. Safari, il a posé une question sur savoir qui peut amorcer la politique de désengorgement. D'abord, c'est le gouvernement à travers un ministère qu'on appelle les ministères de la justice qui initie la politique, qui donne un ordre aux magistrats du parquet, parce que à l'heure actuelle, les ministres de la justice peuvent donner des injonctions aux magistrats du parquet. Mais il y a aussi d'autres modalités. Le président de la République a les pouvoirs de gracier. Il peut, lorsque son intime conviction le pousse, gracier certaines personnes. On l'a vu avec Jacques Ndala, on l'a vu avec, je crois, là, le général ici qui est dit qu'à peine, on l'a vu avec d'autres, même Barnabé, les autres là. Donc le président peut gracier. Les ministres de la justice peuvent aussi accorder des libérations conditionnelles. On voit une personne qui a déjà apuré les trois quarts de sa peine, s'il s'est comporté dignement et de manière disciplinée au niveau de la prison, la loi donne le pouvoir au ministre de la justice de les libérer à travers ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Le Parlement aussi peut prendre des amnisties. Il peut arriver au nom de la paix sociale, au nom de la cohésion, le Parlement peut voter ce qu'on appelle des amnisties. On amnistie certaines personnes qui ont commis des faits graves pour rechercher la paix. Je vous donne le cas, par exemple, de les différentes rébellions qu'on a eues, RCD, MLC, ces gens ont commis des crimes graves. Mais après la transition, on a voté une loi d'amnistie. Ces gens-là n'ont pas été envoyés en prison et ceux qui étaient en prison étaient sortis. Il y a aussi les magistrats qui instruisent lui-même. Lorsqu'il détient une personne, il y a ce qu'on appelle la liberté provisoire. La personne peut soulever des raisons, dire « ma liberté n'est pas à craindre, j'habite telle place, je suis marié, je travaille à la radio Capi, libérez-moi, je serai disponible pour répondre ». Donc les magistrats du parquet, moyennant paiement d'une amende transactionnelle, peut aussi libérer. L'OPJ lui-même aussi, il est OPJ pour instruire, il instruit à charge et à décharge. S'il estime, on accuse cette personne parce qu'il a une dette. La loi lui dit que la dette n'est pas une infraction. Il peut aussi libérer. Mais en parlant des amendes, M. Joly, je voudrais à la longue qu'on puisse aussi faire une émission sur les amendes. Il y a un arrêté interministériel pris par trois ministères, des finances, du budget et de la justice, qui fixe tout. L'amende qu'il faut payer lorsqu'il y a contravention routière, l'amende pour la plainte, l'amende pour la citation, ce sont des faits, des sommes minimes. Mais dans la pratique, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est grave. On peut vous demander 1 000 $, voire 2 000 $ pour vous libérer. Mais dans les papiers de la DGRAL qu'on vous remet, on écrit 40 000 francs. Même nous, avocats, paraissons ridicules devant les clients. Maître, vous m'avez dit on a demandé 1 000 $. Mais comment vous donnez des documents de 40 000 francs?
Oui.
Ce sont des faits bénins, monsieur Joly. Ça laisse à désirer. Maître Omar,
qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrête d'envoyer les gens en prison pour des faits bénins?
Premièrement, il faut la conscience professionnelle du magistrat. Les magistrats, en logique, les magistrats, de manière générale, n'ont d'autorité que la loi. Vous avez vu au niveau de Kenya, la Cour suprême a annulé les élections présidentielles. C'est ça le magistrat. Il doit être conscient de ce qu'il fait. Première chose, c'est la conscience professionnelle. N'envoyer en prison que celui qui a des indices sérieux, celui qui a commis des faits graves, celui dont la fuite est à craindre, celui qui a une identité douteuse. Et puis après l'avoir envoyé en prison, si on observe après les enquêtes qu'on peut le relaxer, on peut le faire. Des deux, il faut des inspections régulières au niveau des amigos, au niveau du parquet, au niveau des prisons. Les magistrats, qu'on appelle des hauts magistrats, doivent descendre inspecter. Ils peuvent même aller de pavillon en pavillon. Sortez-vous tous. Tu es là pourquoi? Moi, je suis là pour telle chose, voilà. Il appelle les magistrats qui instruisent. J'ai même vu récemment, il y a des magistrats qui ont été sanctionnés disciplinairement. Vous maintenez une personne plus d'une année sans envoyer les dossiers au tribunal. Parce que le magistrat du parquet n'a pas les pouvoirs de condamner. Son rôle, c'est de rechercher, de constater, d'arrêter. S'il estime à la fin de l'instruction que la personne a vraiment commis de faits, il fixe le dossier au tribunal, car c'est le tribunal où la cour peut condamner. Mais des magistrats verraient donc. À part la conscience professionnelle, il faut des inspections régulières. Troisième chose, il faut une politique judiciaire. Chaque année, les budgets votés, il y a une part essentielle allouée au pouvoir judiciaire. Mais on n'en sent pas l'impact, on n'en voit pas. Il faut qu'on puisse mettre cet argent à profit. Comme je l'ai dit dans ma troisième proposition, créer des amigos, créer des maisons d'arrêt, créer des prisons. La prison ne peut recevoir qu'un détenu punitif, celui qui a été condamné de manière formelle. La maison d'arrêt ne peut recevoir que ceux qui ont été détenus de manière préventive. Et les amigos, c'est pour ceux qui sont au niveau des OPJ. Donc, la création de cela peut aussi faire œuvre utile. Et enfin, comme l'a dit l'invité, il faut aussi dénoncer, il faut que la Cour de cassation nous aide. Il faut que les différentes cours nous aident. On a une pratique qu'on est en train de détériorer, les greffiers. Lui, il n'a pas de rapporteurs.
Il y a des greffiers qui volent des pièces dans les dossiers. Il y a des greffiers qui font disparaître des dossiers physiques. Vous venez comme ça, votre client est arrêté. Dans les archives, il n'y a pas son dossier. Puisque le dossier a disparu, on doit le maintenir. Voilà pourquoi on appelle la Cour de cassation frigo. Mais nous saluons en ces jours l'arrivée du nouveau chef de la Cour de cassation, le professeur Ndomba. Tant soit peu, il essaie d'organiser les choses et nous prions Dieu qu'il continue dans cet élan.
Merci.
Voilà, très cher Jody, mes solutions pour désengorger les différentes...
Monsieur Adou Kolé, vous êtes au courant de cette pratique de vol des dossiers, de vol des pièces dans les dossiers?
Oui, mais écoutez, je vous avais dit que moi, je suis contact permanent avec le greffe, mais il y a aussi un problème au niveau du greffe. Le greffe nous dit, lorsque le parquet a envoyé des dossiers, il n'envoie pas avec les citations à la prévenue. Or, il faudra que le parquet envoie les dossiers avec les citations de prévenue, cela permet les greffes de fixer l'affaire au tribunal. Mais ce qui est vrai, il n'en voyait pas. Et il faut que les greffes cherchent les moyens pour envoyer le dossier au niveau du tribunal. Et ça prend le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez. D'abord, les greffes. Est-ce que vous connaissez les salaires d'un greffier? Les greffiers ne sont pas payés comme les magistrats. Ils sont un salaire comme tous les fonctionnaires. Donc, pour aller signifier une personne, il faut
de l'argent.
Il faut de l'argent. Il faut les victimes ou bien les prions donner l'argent. S'ils ne donnent pas l'argent, ils mettent le dossier, ils mettent à la croix. Le griffier, il n'a même pas une machine à frapper. Le griffier, il n'a même pas une photocopie. Tout, il faut faire avec son propre. Si elle n'a pas l'argent, il laisse le dossier à la croix. Qu'est-ce qu'elle pêche pour que l'État congolais mette à la disposition des greffes des moyens à peu près pour leur travail. Donc, c'est la même chose au niveau des cours et tribunaux. Ils sont pas, même s'il y a un budget, mais le budget là est insuffisant pour faire leur travail. Donc, tout le monde vit par le caution, le caution à payer et tout. Et ce qui est vrai, il y a une personne qui a demandé, qui a habilité à libérer. Bon. Il y a Maître qui vient de donner l'explication sur ça. Mais ce qui est vrai, qui arrête, qui libère, c'est le parquet. Donc, lorsqu'il y a la surpopulation carcérale, on pointe le doigt à personne, c'est le parquet qui est responsable. Parce que celui qui arrête, celui qui libère, c'est le parquet. Il ne faut pas chercher à voir la midi aux 14h. Qui va libérer, qui n'a pas...
Mais est-ce que il semble qu'il faut qu'il y ait des inspections régulièrement? Est-ce que ça se fait dans les prisons?
Mais je vous avais dit que l'inspection, lorsqu'il va déplacer, il faut les moyens. Il va vous dire, mais moi, je n'ai pas les moyens, je vais déplacer avec quoi? Je vais aller à pied? Mon voiture, il n'a pas de licence? Ils sont pas imbriqués, l'inspection, pour faire leur travail. Donc, si déjà vous voulez que l'inspection... L'inspecteur a fait son bien travail.
Il faut des moyens.
Il faut des moyens. L'inspecteur n'a pas les moyens. Comment voyez-vous qu'un haut magistrat, il va d'abord les routes. Vous avez vu les routes qui va à Makala. Il faut faire 3 heures de temps. Comment Ngobila et son abîmé les routes de 24. Donc pour aller à Makala, le président central de Makala, il faut faire 3 heures de temps. Parce que les routes n'est pas... Parfois, il faut aller à pied. Mieux d'aller à pied au lieu d'aller avec voiture, parce que tu vas faire des heures de temps. Donc, pour vous dire que les magistrats aussi travaillent de
dans de mauvaises conditions.
Donc, il faut aussi penser à ça. En dehors de ça, aussi, il faut un regard au niveau des magistrats. Il faut un regard, parce que c'est comme Maître avait dit.
Il faut sanctionner.
Il faut la sanction. Hein, parce que il y a le magistrat qui travaille bien, qui a une bonne volonté. Il y a certains magistrats, si vous allez là-bas, vous lui soumettez un dossier, ils voient que non, je libère. Mais il y a certains magistrats, ils voient seulement l'argent. Or, on ne peut pas faire le droit avec l'argent. Il y a aussi, à l'intérieur du pays, il n'y en a pas le cour et tribunaux. Le parquet n'existe pas. Donc, il faut que l'État veille en sorte qu'on construise les nouveaux battement dans la maison d'aller pour que les magistrats travaillent dans les bonnes conditions Parce que vous voyez, tous les magistrats, aux magistrats sont ici. Si on envoie à l'intérieur, il n'y a pas un bureau. Il n'y a pas d'installation.
Il n'y a pas de moyens. Il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour ça que vous avez vu. Allez à Inongo. Allez voir ce qu'on appelle ça le parquet. Sans tôle. À la maison sans tôle. Allez à l'Équateur. Déjà, on fait l'instruction ou bien le juger dans le, sur la app, mon frère. Donc,
donc les, bon. Les gens travaillent dans des conditions incroyables.
Hein? Incroyable.
Oui.
Bon, mais ce qui est vrai, nous voulons que.
Mais si on ne reçoit pas de bons salaires, est-ce qu'il faut commencer à envoyer les gens tout le temps en prison parce qu'on n'est pas bien payé? Bon. À cause d'une dette, quelqu'un qui a engrossé une femme mineure, on l'envoie là-bas, tout ça.
Bon, nous
et quelqu'un va passer 3 ans.
Bon, nous déprenons, mais le chef de cette magistrat, c'est l'inspecteur. Donc, bien que l'inspecteur là, ils sont pas les moyens de l'action, mais ils doivent pas rester les bras croisés. Hein, ils doivent pas rester les bras croisés parce que la justice congolaise que nous connaissons, elle est très vite dans les dossiers, il s'agit des dossiers politiques. Mais si c'est pas politique, ils s'en foutent. Vous voyez, nous avons au président votre confrère.
Pourquoi? Parce que les dossiers politiques, c'est juteux. Il y a beaucoup d'argent dedans.
Voilà. Mike Mukebaye, depuis qu'il est là, votre confrère, ne passe encore à juger. Et, bon, vous savez, dans un pays où il y a ce qu'on appelle ça, libération d'expression, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un parce qu'il a injuré tel, il a dit tel, il a dit tel, être en prison? Mais si vous partez dans un pays comme en France ou bien le pays en voie de démocratie, on gît le président Macron, on loue tous les jours, les Français gît, même lorsqu'il est passé. On gît, on achète même le caillou. Est-ce qu'on a arrêté une personne? Non. Moi, je crois que le dossier de Mike Mukebaye, il doit être libéré parce que, bon, c'est son libre expression, c'est l'article 23. Mike Mukebaye, il doit être libéré. Bon, ben, comme les magistrats savent que c'est une affaire politique, même s'il va dire, il a peur. Bon. Il faut appliquer l'article 149 et 51. Leur pouvoir dit, le magistrature est indépendant et tout. Mais non! Mais vous avez vu qu'il y a même certains articles qui disent que même le secrétaire général de l'IDPS avait 58 détenus à Makala. Donc, on ne peut pas utiliser votre pouvoir pour arrêter les gens. Hein? Bon, moi je crois que ça, ce n'était pas le combat du professeur Etienne Tshisekedi ou Amulumba que nous sommes en train de suivre.
Donc voilà, donc monsieur Adou Kolé, on doit poursuivre avec le désengorgement. Après le travail de la commission, vous avez dit que ça s'est arrêté, alors qu'il y a encore beaucoup de cas bénins qu'il faut libérer ou des cas qui n'ont pas été jugés. Maître Omar, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette affaire?
Merci beaucoup monsieur Joly, il n'y a pas de démocratie sans justice. Si l'état des droits était une table, elle aurait comme un des piliers la justice. Lorsqu'elle est bien faite, elle élève une nation. Lorsqu'elle est mal arrangée ou gérée, elle abaisse une nation. De manière générale, nous saluons cette politique de désengorgement, mais nous pensons que c'est une solution conjoncturelle. Il faut des mesures structurelles fortes pour garantir les droits des détenus. Voilà pourquoi je dis qu'il faut premièrement la conscience professionnelle des magistrats et des OPJ. Des deux, il faut créer des infrastructures pour désengorger et permettre à tout le monde de respirer. Et trois, il faut des inspections fréquentes et régulières qui doivent être abouties à deux solutions. Soit on libère les gens pour les faits bénins civils, soit on les met en fixe leur dossier au tribunal, ou enfin on sanctionne des magistrats véreux, des OPJ véreux, qui se prennent pour des dieux alors que dans un état de droit, tout doit être soumis au respect de la loi.
Bien, maître Marc Igalo, merci. Je rappelle que vous êtes... avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, monsieur Joly.
Monsieur Adou Kolé, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, pour détenir, il faut continuer avec des engagements. Il faut, président, signer un décret d'amnistie pour libérer les prisonniers problématiques tels que Mike Mukebaye, tels que Jean-Claude, Jean-Mike Kabound et les bien autres. Il faut, président, nous avons promis de la fermeture de tout le cachot canestin, les dimiables, l'ANER et CNS et consorts. En plus, nous souhaitons que les nouveaux le premier ministre, signe les décrets à la création et l'organisation des services pénitentiaires en RDC. Parce que
Merci, M. Adou Kolé, président national de la Fondation Bill Clinton. À la prochaine.
Merci, moi également.